Bonjour, vous êtes sur Radio FM+, 91 FM Montpellier. Vous écoutez un fil du fer avec Tony Buche. Tony Buche, 30 ans, est un ancien commando marine devenu créateur d'entreprise. Son entreprise a pour nom Émotion. Après une émission sur sa formation et son parcours militaire, c'est aujourd'hui son chemin dans le monde de l'entrepreneuriat et du secourisme qu'il partage. Bonjour Tony.
Bonjour Lionel.
Vous avez travaillé 10 ans dans les commandos marines de l'armée française. De quelle manière l'armée française prépare-t-elle ses militaires à la reconversion dans le monde professionnel civil ?
Bien, il existe une institution qui s'appelle Défense Mobilité, qui a maintenant la mission de proposer à chaque militaire qui quitte l'institution militaire un accompagnement que l'on peut provoquer, que l'on peut demander 1 année à 2 années avant de partir, si vraiment on a déjà en tête le fait de quitter l'armée. Ça, c'est ce que met en place l'armée et les armées. Moi, je n'ai pas trouvé entièrement ma voie là-dedans, puisque j'avais le désir de créer quelque chose. Et tout ce qui était création d'entreprise, entreprendre quelque chose de nouveau, je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions chez Défense Mobilité. Ils étaient plus compétents pour réinsérer, je dirais, des militaires, les aider à faire un CV, une lettre de motivation, définir des compétences que l'on néglige, parce que des fois, les militaires pensent simplement qu'ils sont bons à porter quelque chose, avoir un fusil et partir en mission. Mais non, il y a plein de compétences qui existent, de management en particulier. Et donc moi, je me suis tourné naturellement, dès lors que je n'avais pas ces réponses, vers les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, Indeed, pour trouver des réponses à mes questions. Je suis rentré en contact avec une personne que je remercie beaucoup et que j'ai remercié déjà, qui s'appelle Grégoire Jacquet. C'était un recruteur qui est tombé sur mon fil d'actualité, que j'ai demandé en relation et qui a été sensible à mon parcours et qui a souhaité m'aider. Donc il m'a ouvert son réseau, il m'a défini ses compétences dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y a aussi maintenant, et ça je l'ai su, ça s'est monté pendant que moi je préparais ma conversion, un cabinet tenu par un ancien commando marine, une ancienne personne membre des commandos marines, qui s'appelle le cabinet Pépite, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui sont en processus de reconversion. Il s'appelle Clément, et lui, son job, c'est ça, c'est d'optimiser cette reconversion des militaires en leur proposant des entretiens et un accompagnement par des gens qui sont déjà passés par là, et tout bêtement, par exemple, mettre en relation des militaires comme moi qui ont créé des entreprises avec d'autres qui cherchent un emploi.
Vous êtes un ambitieux et c'est très bien. Vous avez été ambitieux dans votre métier de militaire et c'est très bien. Vous êtes ambitieux en tant qu'entrepreneur. Que signifie s'accomplir professionnellement pour vous ?
Ça signifie d'aller au bout des objectifs que l'on s'est fixés. Lorsque j'étais adolescent, je voulais rentrer au sein des forces spéciales. J'ai échoué à ma première sélection au sein des commandos marines. J'y suis retourné, ça a souri. Et donc pour moi, c'est ça. L'ambition, c'est arriver coûte que coûte à ses objectifs. Et donc c'est primordial d'avoir des objectifs élevés, d'avoir des objectifs lointains pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut sur ce chemin pour y arriver d'une quelconque manière.
Votre état d'esprit actuel est issu de votre ancienne vie militaire. Vous vous reconnaissez dans les valeurs des forces spéciales et de l'entrepreneuriat. Quel est votre état d'esprit actuel et quelles sont pour vous les valeurs des forces spéciales et de l'entrepreneuriat ?
Mon état d'esprit actuel, c'est un état d'esprit ambitieux, comme vous l'avez dit. La volonté de performer dans mon domaine, de faire ma place et de venir révolutionner ce secteur auquel je me suis attaqué, c'est-à-dire le monde du secourisme, de venir secouer ces grandes institutions qui parlent aujourd'hui de secourisme, mais qui stagnent à mon propre avis. Je ne veux pas critiquer les personnes qui travaillent là-bas, moi je critique les structures, et aujourd'hui pour moi il y a une suffisance, et c'est contre ça que je me bats, donc j'ai l'ambition de venir révolutionner certaines parcelles du domaine. Et pour ce qui est des valeurs des forces spéciales, il y a un mot que moi j'aime beaucoup et qui me tient à cœur. Je l'avais cité lors de notre dernier échange sur mon parcours professionnel. C'est l'initiative, la prise d'initiative. Pour moi, c'est une qualité que je définis ça comme une qualité, quelque chose qui me tient à cœur. Une personne qui va prendre l'initiative sans demander à quelqu'un est-ce que je peux le faire ou autre, parce qu'elle est consciente que c'est la bonne chose à faire au bon moment, que ce soit pour sa vie privée ou dans un domaine professionnel. Ça va solutionner cette chose-là qui est devant elle et ça va bonifier le travail de l'équipe. Il y a des valeurs liées au développement personnel, à l'apprentissage constant chez les commandos marines, dans les forces spéciales en général, mais chez les commandos marines, tous les 3 ans, on repasse un test qui peut être sanctionné de l'abandon de son béret vert. Donc le béret vert, c'est ce que portent les commandos marines. Un petit peu comme certains diront les légionnaires, mais nous on le porte de l'autre côté, et c'est une couleur qui est un petit peu variée, enfin variante, pardon. Donc voilà, la remise en question, l'apprentissage, c'est une des valeurs que j'ai apprises et que j'ai toujours aujourd'hui. Et puis il y a aussi cette valeur liée à l'expertise. J'ai dit dans un autre podcast que l'expertise, ça, c'est une somme de détails, mais l'expertise n'est pas un détail.
Vous pratiquez le sport intensément et régulièrement, de manière disciplinée. Vous êtes tenace. En quoi êtes-vous un entrepreneur intense et discipliné, Tony?
Pour moi, si un entrepreneur est intense, effectivement, il est discipliné. Parce que, et je prends mon propre cas, même si j'écoute beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de podcasts, et j'ai à cœur d'échanger avec beaucoup de monde pour prendre le meilleur de chacun, être structuré dans son travail et dans sa vie, c'est quelque chose d'important. Déjà pour pouvoir faire la place à toutes les sollicitations qui existent, et tout de même laisser de la place à sa vie privée. Même si on en reparlera certainement plus tard, mais la vie privée, des fois, elle en pâtit. Le fait de structurer sa journée, ça permet de manager correctement les équipes qui travaillent avec nous. Ça permet d'imposer un cadre. Moi, j'aime bien dire, parce que je suis un petit peu fan de football, qu'à un moment, il faut être le numéro 10, mettre le pied sur le ballon, lever la tête et pouvoir indiquer telle ou telle direction où aller. Ça va pour moi dans tout ce qui est structuration. Et le sport, moi, m'inculque des valeurs telles que l'abnégation. Et dans l'entrepreneuriat, je commence à l'apprendre, je le savais, mais maintenant, je suis correctement confronté. C'est quelque chose d'important. Parce qu'au fur et à mesure, comme dans mon passé professionnel, il va y avoir une sélection naturelle qui va s'opérer. Et c'est là où je ferai la différence.
Lors d'une conversation avant ce fil du fer, vous m'avez dit, Tony, que vous avez vu votre maman élever seule pendant longtemps ses 2 enfants, vous et votre frère. Vous avez vu ce que se sacrifier pour aller bien signifie. Le sacrifice fait-il partie de la vie d'un nouveau créateur d'entreprise, Tony?
Je dirais oui, ça en fait partie, mais ça va être plus ou moins long selon les ambitions que l'on a. On peut très bien vivre aujourd'hui en créant une entreprise et en intégrant un marché et en délaissant un petit peu sa vie privée pendant 1 mois ou 2 mois. Donc ça va être la différence entre les ambitions que l'on a si on entre sur un marché, si on en crée un. Et pour ce qui est de mon cas et donc de plusieurs d'autres, effectivement, pour moi, le sacrifice fait partie de la vie d'un créateur d'entreprise. Parce que c'est un investissement. Donc moi, je n'en dis pas un sacrifice. Je ne le définis pas comme ça. Pour moi, c'est un investissement. 1 an, 2 ans, 3 ans à tout mettre en œuvre, à délaisser certainement un petit peu sa compagne, voir un peu moins ses amis, aller moins au cinéma, parce qu'on peut y retourner, aller moins au restaurant, pour mettre toutes les chances de notre côté pour que ça prenne forme, que ça prenne vie. Et que bah, par la suite, on puisse vivre décemment et puis confortablement.
Dans un autre fil du fer, nous avions parlé du parcours du combattant, du militaire. Est-ce qu'il y a un parcours du combattant pour la création d'une entreprise en France? Contre quoi avez-vous dû vous battre? Si vous avez dû vous battre, l'administration, le bancaire, que sais-je?
Je me suis battu contre moi. Parce que quand on crée une entreprise, on est seul au début. Et donc, il faut faire toutes ces choses-là que vous avez énumérées. Et tout ne nous plaît pas. Et moi, j'ai un rapport éloigné avec l'administratif, la comptabilité, le juridique, la protection des innovations. Mais comme l'objectif est éloigné, comme j'ai dit tout à l'heure, comme l'objectif est défini, Je mets de l'implication dedans et ça me prend plus de temps. Donc je dirais que j'ai d'abord dû me battre contre moi. Mais sinon, dans tout ce qui va être création d'entreprise, c'est relativement bien fait en France, je trouve, parce que j'ai su trouver des réponses à mes questions. Et aujourd'hui, ça prend forme et ça se développe.
Et où avez-vous pu trouver réponse à vos questions? Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais peut-être développer. On passe de militaire à un homme qui va s'occuper de communication, de comptabilité, de marketing, etc.
On trouve les réponses dans l'échange, pour moi. Il faut solliciter l'échange, ne pas être timide. Je n'ai jamais eu un non, dans le sens où si on va vers une personne qui paraît inaccessible, je prends par exemple un entrepreneur que moi j'apprécie beaucoup et que j'aimerais rencontrer un jour, qui s'appelle Anthony Bourbon. C'est le fondateur de Feed, une entreprise de bar qui souhaite remplacer un repas, par exemple. Cet entrepreneur, je lui ai envoyé un message avec une question précise et j'ai eu ma réponse précise. Cet homme-là, il est certainement très sollicité. Et donc, ne pas hésiter à envoyer des demandes, à envoyer des mails avec des questions précises, pas simplement est-ce qu'on peut échanger, mais voilà, j'ai une question précise sur le marketing, l'acquisition de clients, le marché B2B ou autre. Et on est souvent surpris par des réponses. Et donc, moi, j'ai trouvé ces réponses-là au contact de personnes que j'ai sollicitées, qu'elles soient très sollicitées comme Anthony Bourbon, mais auprès de personnes qui avaient la qualification de manager, de développeur, marketeur. Et on trouve des réponses gratuitement, sans embaucher quelqu'un sur une prestation de plusieurs semaines. Donc, pour trouver ces réponses, la communication, c'est important.
La gestion du stress, c'est quelque chose qui doit être pratiqué dans l'armée, puisque vous avez été dans l'armée. Est-ce que ça vous sert aujourd'hui et depuis avant la création, monter l'idée, la création et aujourd'hui le développement de l'entreprise?
Oui, la gestion du stress, effectivement, j'ai eu des outils au sein de l'armée et des forces spéciales pour le gérer. Mais c'est une confrontation au stress qui est différente de celle que j'ai maintenant. C'est-à-dire que le stress que je peux rencontrer en tant qu'entrepreneur, c'est l'avenir à long terme. Je sais où je vais, mais je ne sais pas si ça va réussir. Donc c'est un stress qui est profond. Mais ma parade à ça, c'est ma confiance en moi, la confiance que je fais rayonner autour de moi, parce que effectivement, plus jeune, je souhaitais réussir des choses qui me paraissaient comme inaccessibles. Ça a été très dur. Mais j'ai réussi, donc il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas à présent. Pour gérer le stress, j'essaie de me remettre à une certaine confiance en soi pour faire aussi la part des choses et mettre beaucoup d'outils au service de mon développement.
Pour la pause musicale, nous écoutons votre choix, Tony. Votre choix, c'est Jamiroquai qui chante Space Cowboy. Pourquoi ce choix?
Déjà parce que c'est un très bon choix. Et ensuite, parce que c'est une musique que j'ai beaucoup écoutée en mission et qui véhicule de Von Bayeux.
Alors, vaille bon. With a sunshine smile upon my face, my friend, a class at hand. In all my head, I bet runs have disappeared without a trace. I'm mad, oh, I found somebody who I can rely on. This is the return of the space cowboy into planetary. Good vibes on. Say at the speed of Jeeva. Everything is good, high and green. Jamiroquai, vous êtes sur Radio FM+, 91 FM, Tony Buch, au micro du Fil du Fer. Il évoque son parcours de créateur d'émotions, une entreprise innovante de formation au secourisme. Qu'est-ce qu'émotion, Tony ?
Eh bien, émotion, c'est une start-up du domaine des premiers secours. Et pour être précis, c'est la première marque d'équipement et de formation de secourisme conçue sur mesure pour les sports outdoor et les sports extrêmes. Voici la version courte, et je suis capable de le faire en 30 secondes, 5 minutes, 10 minutes et 30 minutes, parce que j'adore en parler.
Eh bien, parlez-en, vous avez du temps devant vous.
Et émotion s'adresse aux sportifs, parce qu'aujourd'hui, aucun modèle de secourisme s'adresse à eux. C'est une passion, le sport. Et donc aujourd'hui, pour développer un nouveau projet, c'est important d'être passionné. Toute personne épanouie et productive. Donc allons-y, autant choisir un domaine qui nous plaît. Moi c'est le sport, le secourisme, c'est des qualifications que j'avais lors de mon passage dans les forces spéciales, c'était une des casquettes en plus que j'avais. Certains ont des compétences en drone, en radio, en démolition, en autisme ou autre. Moi c'était le secourisme, c'était pour prêter main forte à l'infirmier ou bien pour remplacer l'infirmier si lui était blessé. Ça arrive, c'est comme ça, ça fait partie du job. Et ce domaine m'a tellement plu que je l'ai couplé au sport, et aujourd'hui on propose des formations, comme je l'ai dit, qui sont sur mesure pour les sportifs, qu'on délivre auprès d'associations, de clubs sportifs, d'universités en filière STAPS, mais aussi auprès de staff de sportifs professionnels. Aujourd'hui, une personne qui fait du sport, elle se dit rarement « je vais prendre part à une formation de premier secours ». Elle peut se dire par contre que oui, elle prend des risques, je ne suis pas passé loin de la chute, ou alors oui, oui Tony, je suis d'accord avec toi, des fois c'est chaud. Et ça fait partie du job, ça fait partie de la pratique, c'est pas grave. Et elle ne fait pas le chemin naturel vers de la formation, ou même se renseigner comment on fait pour gérer une blessure. Et bah, émotion, c'est la pièce du puzzle manquante entre les deux, parce qu'on propose des choses qui sont sur mesure par rapport à un sport, aux équipements que portent et que emportent ces sportifs, par rapport à un environnement et par rapport à un type de blessure.
Quel constat faites-vous sur le secourisme en France et sur les formations données ?
Eh ben, le constat, j'aimerais d'abord le présenter de façon factuelle. Les pays européens qui nous entourent, tels que l'Allemagne, la Norvège, la Suède, le Danemark, sont formés à 80%, à hauteur de 80%. 80% de la population a déjà assisté à une formation de premier secours. En France, nous sommes à peu près à 30%. Bon, factuellement, j'aime à dire qu'on est en retard. Mais dire qu'on est en retard sans rien proposer, bah, c'est effectivement bateau et tout le monde peut le faire. Depuis 2017, c'est une volonté gouvernementale de mettre en avant le secourisme et de former un maximum de personnes. Malheureusement freinée par cette chose-là qu'on a appelée le Covid. En ce moment, il y a des tensions mondiales au niveau de la Russie et de l'Ukraine, donc ce ne sera pas pour de suite. Mais voilà, ça a été établi, écrit en 2017, comme quoi pendant 5 ans, on allait plancher sur le sujet pour faire en sorte de former des gens, de faire émerger des bonnes idées. Aujourd'hui, moi, je fais le constat que le secourisme, il n'est pas attractif. Et je fais le constat très, très facilement autour de moi. Ceux qui m'écoutent, je pense qu'ils n'ont pas une image très sexy du secourisme, à part si on aborde le sujet de l'égérie de la Croix-Rouge, Adriana Carambeu. Mais aujourd'hui, c'est pas sexy, on n'a pas envie de s'en rapprocher pour en savoir plus, alors que le sujet, il est universel, et que le sujet, il peut permettre à quiconque de solutionner un problème dans son environnement proche. Pour faire face à ça, moi je propose du spécifique, on en a parlé juste avant, et j'en ai parlé un tout petit peu dans le fil du fer précédent, où on a échangé ensemble sur mon parcours professionnel. Je trouve que le secourisme, ensemble, pour faire un constat, c'est une niche bien gardée de grandes institutions qui ne se remettent pas en question. Et de ce fait, le sujet stagne. Et je me suis retrouvé à faire des choses où, au final, je me suis rendu compte que j'étais le premier, alors que je n'ai rien fait de révolutionnaire. On en parlera certainement un peu plus tard.
L'idée d'émotion vous est venue alors que vous étiez encore dans l'armée. Vous en avez un petit peu parlé, mais quelle est l'histoire qui préside à sa création ? Et surtout, est-ce qu'il y a eu, hélas, des moments où vous avez dû utiliser vos compétences en secourisme ?
Alors, l'idée des émotions, j'en ai parlé, c'est vrai, un petit peu. Je vais pouvoir le redéfinir très simplement et calmement. Pour répondre à la question, non, je n'ai jamais eu à utiliser mes compétences sur des copains. Je pense que c'était ça la question finale. Sur des personnes blessées, oui, mais ce n'était pas des copains, donc il n'y avait pas cette dimension émotionnelle affective. J'ai simplement fait mon travail correctement. Émotion, c'est né d'un événement que j'ai vécu de l'intérieur, qui m'a particulièrement touché. Les attentats de Paris, lorsqu'ils se sont passés, j'étais à l'étranger. J'ai vécu ça de loin. Puis les attentats de Nice, l'année qui a suivi, un 14 juillet. Et ce 14 juillet-là, je rentrais de mission. Je rentrais du Moyen-Orient, encore une fois. Et j'étais dans le bus, particulièrement. Donc on arrive à l'aéroport, on prend un bus, on remet tous nos cartes SIM dans le téléphone. Certains la mettent plus rapidement que d'autres. Et on commence à recevoir des notifications de la famille, on envoie des messages, on va arriver, et là on a une notification, je crois vers 21h, 5 morts à Nice, véhicule bélier. Et en fait, de 21h à 1h du matin, je suis dans le bus en direction de la Bretagne pour retourner sur l'Orient, et toutes les demi-heures, je reçois des notifications qui me disent bah, X morts en plus, X morts pour arriver jusqu'à un total de 80, 85 je crois. J'avais déjà vécu les attentats de Paris de loin. Ça m'avait touché en me disant que j'étais impuissant. Et là, je le revis d'encore plus près. J'étais là où se trouvaient ces terroristes, dans leur pays, pour faire en sorte qu'ils ne viennent pas à la maison. Et au final, dans le bus, j'apprends qu'ils sont ici et qu'en fait, je ne peux rien faire. Et à ce moment-là, je me sens encore une fois impuissant et inutile. Ces deux événements feront que c'est décidé, quand j'aurai terminé de vouloir réaliser ce que je souhaitais étant adolescent, eh bien, je mettrais mes compétences au service du grand public, et je ne le savais pas encore, mais du sport aussi.
Pour une reconversion professionnelle en tant que créateur d'entreprise, j'imagine que vous avez regardé ce que d'autres entrepreneurs font et proposent. Dans le monde de l'entreprise, qu'est-ce qu'une bonne idée, selon vous ?
Je définirais une bonne idée si elle est révolutionnaire. C'est-à-dire que Lorsque j'ai souhaité commencer à entreprendre, j'ai commencé à lire aussi, chose que je ne faisais pas à l'école. Je détestais lire parce que pour moi, ça ne m'apportait rien. Mais j'ai trouvé des bouquins qui m'apportaient quelque chose. Donc, je me suis mis à lire. Ceux qui n'aiment pas lire, il y a aussi Audible qui est très bien. On peut écouter des bouquins. Moi, j'en écoute beaucoup à mon niveau, hein, beaucoup à mon niveau. J'ai lu un bouquin qui s'appelle « Libérer votre cerveau » de Idriss Aberkane, et qui parle de neurosciences, de neuroergonomie. Et il dit que si une... Enfin, il reprend une idée de Schopenhauer, qui dit qu'une idée est révolutionnaire si elle passe par trois étapes. Si elle est ridicule, puis si elle devient dangereuse et qu'elle est sévèrement combattue, et si au final elle devient évidente. Prenons le droit de vote des femmes, par exemple. Ça a été ridicule à un moment. Et aujourd'hui, les femmes votent et tout va bien. L'esclavage, ça a été évident. Aujourd'hui, on ne le considère plus. La terre est ronde. Et enfin, pouvoir payer avec son téléphone, ça a été ridicule, un jour dangereux. Et aujourd'hui, tout le monde le fait, and so what. Donc voilà, une bonne idée pour moi, c'est une idée qui est révolutionnaire. Chaque idée révolutionnaire passe foncièrement par ces trois étapes, ce qui veut dire qu'elle est toujours ridicule. L'idée inverse n'est pas vraie. Toute idée à la con n'est pas révolutionnaire. Donc il faut faire le, il faut faire le tri.
Merci. En quoi émotion, donc, est-elle une entreprise portée par une bonne idée ?
Eh bien, parce que ce que émotion fait, personne ne le fait. Et comment est-ce que je rapporte ça à ce que j'ai dit précédemment ? Eh bien, émotion, aujourd'hui, apporte un côté attractif au secourisme, et je ne me fais pas que des copains. Il y a des anciens, des gens de l'ancien monde qui sont installés dans ce milieu, dans ce domaine, et qui ne voient pas d'une bonne idée de voir ça de façon attractive, alors que pour moi, ça ne sert à rien de parler du sujet de façon sérieuse en formation, parce que dès lors que la blessure va arriver, bah, par définition, ce sera déjà sérieux, donc on aura déjà une charge de stress importante. Pour moi, les leviers intéressants et primordiaux pour apprendre correctement en pédagogie, ça va être le divertissement, le jeu, l'humour, toutes ces choses-là, des choses que moi j'aurais aimé rencontrer au contact des formateurs que j'ai eus. J'en ai eu un ou deux très très bons avec qui j'ai gardé contact, mais ça n'a pas été, ça n'a pas été toujours le cas. Moi, je suis titulaire de toutes les formations qui existent et toutes les certifications qui existent dans le domaine du secourisme, pour aller jusqu'aux formateurs de formateurs et créateurs de formations. Et donc voilà. Voilà pourquoi Émotion est une bonne idée, parce qu'on voit les choses de façon différente, sur mesure et surtout attractive.
Parlons donc des formations. De quel type sont-elles et quelle est la relation que vous voulez privilégier avec vos clients ?
Les formations, eh bien, elles sont, je l'ai déjà dit, mais je vais insister, elles sont sur mesure et adaptées. Un sport, un environnement, un type d'équipement et un type de blessure qu'on peut rencontrer.
Vous pouvez donner un exemple ?
Bien sûr.
Exemple.
Prenons une personne qui fait du VTT, de descente, que ces personnes-là appellent du DH. Eh bien, il ne va pas être confronté aux mêmes blessures et au même environnement qu'une personne qui fait du kitesurf ou un skieur. Dans les locaux de l'ESF, avec qui j'ai été échangé avec des moniteurs de ski, j'ai été surpris de savoir qu'ils n'avaient aucune formation de premier secours adaptée. Ils ont simplement un PSC1, qui est la base du secourisme pour... la base du secourisme et qu'ils ont au niveau de leur cursus de formation. Mais ce n'est pas remis à jour chaque année. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un moniteur de ski, il a une formation de premier secours de son brevet d'état en 2015. Ça n'a pas été remis à jour et il n'a pas d'équipement et pas de formation aujourd'hui spécifique. Moi, ça me paraît aberrant. Donc, on a franchi le pas. Donc, ces formations, elles sont, comme je vous l'ai dit, adaptées sur ces différentes choses. Ensuite, en tant que formateur, je ne me considère pas comme le sachant à 100%. Et c'est en ça que Émotion est différente des autres institutions. Parce que pour moi, ça passe par un échange. Je connais beaucoup plus de choses que les sportifs face auxquels je me présente. Par contre, grâce à leur échange, à leur expertise dans leur sport, je vais pouvoir adapter mon contenu parce que j'ai tout un tas de certifications et je vais piocher dans certaines d'entre elles pour eh bien, faire un produit clé en main. Et par exemple, pour que ça vous parle, une personne qui fait du running... ou de la randonnée, on va aborder des choses qui vont être l'hypothermie, le coup de fringale, l'hypoglycémie, l'hyperthermie, le coup de chaleur, alors qu'une personne qui fait du parcours, parce que j'ai pu rencontrer le champion du monde de parcours, 6 fois champion du monde, et on a travaillé avec lui, et bien là on va intégrer du traumatisme crânien, des choses que ne verront pas les coureurs à pied. Donc voilà, je me sers de mes qualifications pour avoir ces choses spécifiques, je ne suis pas le sachant à 100%, c'est une relation. Et sur le dernier point, qui est quelle relation j'aime avoir avec ces sportifs, bah c'est une relation d'échange, parce que moi j'en apprends aussi. Et le but du jeu, c'est qu'ils se sentent quelque part comme à la maison, parce que comme je l'ai dit, le meilleur moyen d'apprendre, c'est le divertissement, et c'est comme ça qu'ils pourront retenir un maximum d'éléments.
Vous êtes soutenu par Adoc, une agence de développement économique. Quel est son soutien à l'égard d'Émotion ?
Eh bien, avant de dire ce que Adoc fait pour Émotion, j'aimerais profiter de ce moment que j'ai pour dire encore une fois que si moi j'ai eu accès à Adoc, c'est parce que j'ai noué des contacts via, en l'occurrence, LinkedIn, des gens qui étaient sur la même niche que moi et à qui j'ai voulu présenter le projet, leur proposer d'améliorer le leur ou d'intégrer Émotion comme solution à leur projet. Et lors d'un échange, le CEO d'une des boîtes m'a dit « Mais tu connais Adoc ?» Je ne connaissais pas Adoc. Il m'a mis en relation avec une personne... qui l'avait accompagné. J'ai présenté le projet et cette personne m'a dit « Bah oui, tu rentres dans les clous, on a une session qui s'ouvre dans 2 mois, tu peux candidater. » Et c'est pour ça que je suis arrivé chez Adoc. Donc encore une fois, c'est en se mettant un coup de pied au cul, en démarchant les gens, que on débloque des choses et des solutions par la suite. Adoc m'accompagne sous plusieurs formes, donc il y a déjà un accompagnement personnalisé. En vulgarisant, ça veut dire grâce aux spécialistes qui sont chez Adoc et qui voient des créations d'entreprises tous les ans, ils prennent le projet, ils le secouent très fort et ils en gardent le meilleur ou bien ils montrent les choses à améliorer. On profite d'un écosystème régional, d'un réseau important. On profite de formations et d'ateliers collectifs parce qu'il y a 15 projets qui ont été sélectionnés pour cette session de 2022 entre Toulouse et Montpellier. Et donc le fait d'avoir son projet exposé auprès de personnes nouvelles qui sont sur d'autres niches, eh bien, ça permet d'en ressortir soit des synergies, soit des choses auxquelles on n'avait pas pensé. On a aussi plusieurs matinales et après-midi de visio individuels avec des spécialistes qui nous sont mis à disposition par le programme de pré-incubation Adoc. Par la suite, on aura pour les entreprises qui vont suivre le cursus entièrement à l'issue de différents oraux, un soutien pour un montage financier. Et puis enfin, ce que Adhoc permet, c'est d'avoir quelque part le tampon, le label Adhoc. Aujourd'hui, quand je démarche certaines personnes qui sont en relation avec, enfin de près ou de loin avec Adhoc, et que je leur dis bonjour, je suis Tony Buche, fondateur de Emotion, je suis accompagné par Adhoc, leur oreille est plus attentive.
Dans les deux dernières minutes qui nous restent, une petite question double. Quelles sont les ambitions d'Emotion dans son domaine? Et puis aussi, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui voudraient travailler pour vous, quel profil recherchez-vous ou rechercheriez-vous?
Les ambitions d'Emotion, elles sont doubles. La première, c'est d'être reconnu comme l'acteur numéro un de la prévention santé dans le sport. Et ce, dès 2024, pour profiter de l'engouement autour du sport des Jeux Olympiques qui arrivent à Paris. La seconde ambition, je l'ai déjà dit, mais c'est de venir secouer ces grosses institutions qui parlent aujourd'hui de secourisme pour le faire évoluer, tout simplement. Parce qu'au final, on va permettre à des personnes de savoir réagir à un besoin face à un proche, et c'est bien ça le plus important. Et les personnes qui voudraient nous rejoindre ou entrer en contact avec nous, elles doivent être ambitieuses, passionnées, rigoureuses, elles doivent être déterminées, et elles doivent avoir le sens de l'humour.
C'était un fil du fer de Tony Buche. Merci à Eric pour la technique.